J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Cet architecte est un homme du Sud, un homme de la Méditerranée. C'est d'ailleurs lui qui a conçu le bâtiment du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet amoureux du béton n'aime pas la langue de bois. 6 ans après, l'architecture est un sport de combat. Rudy Ricciotti signe à nouveau un livre passionné et passionnant dans la collection Conversation pour demain des éditions textuelles. Un dialogue avec David Desquinville, dans lequel on croise Bambi et Picasso, Jacques Tati et les Gilets jaunes, ou encore Michel Houellebecq, présenté, je cite, comme l'écrivain français ayant réussi à faire tenir en équilibre ses cigarettes entre le majeur et l'annulaire de la main droite. Sans oublier quelques grands noms qui, comme lui, cultivent des origines italiennes. L'architecte du casse du siècle, Albert Spaggiari, Antonioni, Machiavel ou Malaparte. Titre du livre, L'exil de la beauté, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Rudy Ricciotti.
Oui, bonjour.
L'exil de la beauté, quel drôle de titre. Pourquoi la beauté serait-elle partie en exil?
Écoutez, c'est parce qu'il y a un moment de survivance panique. D'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, la beauté se fait la malle, part sur la route, on ne la voit plus, elle quitte notre horizon ou confidentiel ou métaphysique, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, que s'est-il passé pour que la beauté soit autant suspecte, autant culpabilisée.
Invisible à force d'être ignoré, c'est ce que vous écrivez.
Ah bah oui, ça c'est la moindre des choses, c'est l'indifférence par rapport à la beauté. On le voit sur tellement de sujets quotidiens, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'architecture, que ce soit l'ameublement, que ce soit le goût pour le travail des artistes. Une indifférence générale effrayante.
Mais elle est partie d'elle-même ou on l'a fait partir?
Ah, peut-être qu'on a participé un peu en lui mettant les mains dans le dos pour qu'elle s'en aille. Ça devient une maladie, hein, ou une manie, hein. Mais de ça, même les cultureux ont très vite, début 68, élaboré une critique de la beauté comme si c'était les attributs de la société bourgeoise. Je me rappelle avoir parlé avec Claude Viala de Support Surface, qui est quand même un grand artiste communiste, et qui me disait en 68, on nous disait que l'histoire de l'art était finie, qu'il n'y avait plus rien à inventer, et que de toute façon c'était l'attribut des bourgeois, la réalité du monde bourgeois, etc. Il se disait, on voulait repousser les limites de l'art. Comme Buren avec des rayures, Toroni avec des points carrés. Et je trouvais ça extrêmement signifiant. C'était un moment, c'était le signe d'un abandon ou le signe d'une survivance. Et bravo à Support Surface d'ailleurs d'avoir engagé un combat de résistance pour faire fuir l'exil de la beauté en refondant les mécanismes, ceux de la répétition, ceux de l'abstraction, du hasard aussi.
Mais alors, Rudy Ricciotti, pour pouvoir mener une critique de la beauté, encore faut-il savoir ce qu'est la beauté. Quelle est la définition que vous en donnez?
Ah, ça, je l'attendais, cette question.
Ah bah oui.
Mais j'y ai pas trop songé, hein, à dire la vérité. Parce que je l'ai un peu perdu de vue, moi aussi, mais de manière obsédante, j'essaie de lui courir après, de l'attraper à bras le corps pour éviter qu'elle s'enfuie plus loin. La beauté, mais d'abord, émotionnellement, c'est quelque chose qui parle. Qui concerne, c'est aussi une
mise... Qui parle au cœur, qui parle au cerveau.
Mais qui peut parler au ventre, qui peut parler à la mémoire, qui peut parler au goût. Comme si le goût était suspect. Le mot goût, on ne l'utilise plus. Qui peut parler, bien sûr, au-delà des sentiments, qui peut parler à la raison politique. D'ailleurs, je suis extrêmement persuadé que esthétique et politique sont extrêmement liés. La politique, c'est l'art d'administrer la cité. Et l'esthétique, c'est l'homme au porté de la question politique. Et on voit bien que le désarroi qui est le nôtre aujourd'hui, sur tant de sujets propres à la question politique ou à la question esthétique, sont liés à la perte de... j'ose pas dire perte de repère, parce que ça c'est un peu facile, ça fait un peu vieux réac.
Oui, alors justement, vous utilisez le mot réactionnaire. Hein. D'ailleurs, vous dites, sur un point je suis réactionnaire, c'est tout ce qui concerne l'éducation et le fait que les humanités ne soient plus aussi enseignées, n'ont plus la place qu'elles avaient dans l'école de la République.
D'abord, il y a plusieurs sujets. Moi, j'ai dit que j'étais réactionnaire au sens de réactif à la modernité. Je n'aime pas la vocifération. Moi, j'aime beaucoup Barbé d'Aurevilly comme auteur, parce que lorsqu'il fait un livre, il fait des phrases. Il fait 2-3 phrases sur une page entière. Donc on est loin de la vocifération du slam.
Ah, vous aimez pas le slam et le rap, hein. Ça, c'est,
non, mais non, je n'aime pas.
C'est une tendance lourde.
Écoutez, John Mayall, le chef-d'œuvre, le génie du rock, Nourri de blues lui-même disait que le rap était démuni de pertinence. Il était terrible, John Mayall. On ne va pas le considérer comme un réac. C'est l'inventeur, c'est le maître de tous les rockers. Et quelqu'un de très positif. Là, il paraît qu'il joue encore. Je ne sais pas quel âge il a. Mais pour venir à ces questions réac ou pas réac, réactif à la modernité, j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses qu'on se doit. D'avoir un peu une culture critique et pas cette nonchalance qui consiste à être dans une vraie fausse tolérance extrêmement plastique, extrêmement molle, qui fait de nous nous-mêmes des produits de consommation culturelle qui au quotidien finissent par passer totalement inaperçus. Hein.
Alors il y a une scène que chacun de nous avons en tête dans le monde entier, une scène d'un des plus célèbres films de Walt Disney qui a marqué plusieurs générations, cette scène-ci.
Mommy, vite, les fourrés. Maman ? Maman ! Maman ! Où es-tu ? Maman !
Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi.
Alors là, il faut que vous nous expliquiez quand même, Rudy Ricciotti, parce que vous écrivez ceci, la mort de Bambi a fait des dégâts. En quoi cette scène qui a fait pleurer des générations et des générations d'enfants, des adultes aussi, a-t-elle fait des dégâts ?
Aïe. Bon, on n'est pas dans une église pourtant là ici. Hein.
Non, mais vous me posez la question.
On est dans une radio libre.
Oui,
presque. Écoutez,
bon, libre.
Non, mais il y a une infantilisation. Je veux dire, une infantilisation qui touche à l'horizon névrotico-romantique du discours environnementaliste, totalement inexpert. Hein. Bambi, c'est devenu la figure collective aujourd'hui de l'intellectuel tendre. Et ça m'appelle Jean-Paul Curnier sur la question de l'indifférence. Vous rappelez le philosophe Jean-Paul Curnier, gigantesque, ami, mon frère.
Vous le citez dans le...
Ouais, décédé, qui disait la révolte, il disait que refuser l'indifférence, c'est la phrase de cet auteur, là, j'oublie son nom, comment ça s'appelle. Il disait, c'est, non, pas refuser l'indifférence, c'est une autre fois. Il disait, enfin bref, il y a dans l'air du temps une révolte des peluches. Voilà. J'avais aimé cette phrase de Curnier. La révolte des peluches. On est un peu tous des peluches, non, finalement. Vous trouvez
mais
pas?
Si elles se révoltent, est-ce que ce sont toujours des peluches?
Ben oui, ce sont des peluches articulées par une main abstraite qui serait celle de notre mauvaise conscience. Et celle de nos derniers sursauts.
Bon, mais à quel rapport avec la beauté, Rudy Ricciotti?
Ben écoutez, je n'ose pas affirmer que la peluche serait laide. La peluche, elle a quand même au moins une vertu érotique lorsqu'on la tient contre le ventre. Non, c'est quelque chose de soyeux. C'est un langage minimal ou minimum, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais quel rapport avec la beauté? Mais c'est la notion de perte de tension. La tension, pas attention, tension TEN, est quelque chose qui a disparu dans le discours esthétique. Comme s'il y avait, là encore une fois, un procès à faire à la violence esthétique. La violence esthétique est nécessaire, est-il nécessaire de rappeler tous ces cinéastes exceptionnels qui ont travaillé sous ces notions-là. Donc la beauté, c'est une denrée fragile.
Mais donc nous sommes devenus frileux, nous n'osons pas assez, nous ne sommes pas assez décoiffés, je crois que c'est ce que vous écrivez,
ça,
vous direz tu as dit. Mais alors là vous êtes arrivé en studio, vous êtes complètement décoiffé, hein, ça vous rassure tout de suite. Ça veut dire que le monde est devenu vraiment politiquement correct, le monde est devenu ennuyeux.
Écoutez, le politiquement correct, c'est un drame. C'est un drame qui participe de l'extinction de l'intelligence et de la créativité de la pensée française. Le politiquement correct...
C'est une, C'est une spécificité française?
Non, c'est une spécificité internationale qui nous vient par le voyage neuroleptique anglo-saxon. D'ailleurs, je lisais ce matin comment des universitaires d'université américaine considéraient que la peinture d'Hervé Di Rosa à l'Assemblée nationale, et que la nouvelle figuration était une peinture raciste. Non mais on rêve, attendez, lorsqu'on a atteint un tel niveau de névrose, il faut prendre des neuroleptiques pour se soigner. Je veux dire, ça marche plus comme ça. Et donc, le politiquement correct est devenue l'alternative, la dernière version de la pornographie, au point même que c'est probablement la refiguration d'une scène sodomite Rocco Siffredi. Voilà.
Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas politiquement correct, en tout cas à l'échelle française, c'est Donald Trump, c'est le président américain, et qu'on comprend pas très très bien, parce que vous dites à la fois Donald Trump, à travers ses tweets notamment, c'est une vision extrêmement binaire, extrêmement simpliste, et pourtant il est tout sauf politiquement correct.
Non, attendez, lorsque Donald Trump dit faut envoyer les Canadairs à Marignane, d'ailleurs, hein, j'ai un pilote de Canadair, j'aurais bien aimé qu'il bombarde Notre-Dame, mais seulement si vous bombardez Notre-Dame avec des tonnes d'eau, oui, le souffle, vous détruisez tout.
C'est pour ça que...
Mais... J'ai envie de défendre Donald Trump sur l'idée que, dans son discours politiquement correct, il a des audaces que nous n'avons plus, nous les Européens. Je pense par exemple le fait qu'ils disent aux Chinois, vous ne pouvez pas tout faire, votre impérialisme ça suffit. Il faudrait juste rappeler que la Chine aujourd'hui détient la majorité de sols où on produit des métaux rares, les terres rares, qui contrôle de plus en plus les terres agricoles du monde entier, des infrastructures portuaires des aéroports, et que c'est quand même de l'impérialisme. C'est quand même la plus grosse croissance du budget militaire au monde, hein, la Chine. Donc, c'est pas un discours anti-chinois que de le dire, mais que Trump ait au moins les couilles de le dire, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas menacé par l'impérialisme américain, on est plutôt menacé par l'impérialisme chinois. Et nous, l'Europe, on est petit, tout petit. Et la France, avec 2% de poids dans l'économie mondiale, on est un petit poussé.
Alors, venons-en à votre métier, Audrey Tchiotti, à votre métier d'architecte, mais en même temps, on parle que de ça depuis le début de l'émission, d'une certaine façon, puisque là, un architecte, c'est quelqu'un qui réfléchit à la façon dont tourne le monde, à la façon dont, qui fait de la politique, en fait, l'architecte, c'est
absolument.
Celui qui s'intéresse à la vie de la cité.
Absolument, absolument.
Et à la façon dont l'homme s'inscrit dans son environnement, dans
absolument,
son univers. On
absolument.
Est d'accord. Donc, dans la construction, votre métier, Audrey Tchiotti, vous écrivez, intelligence et sensibilité sont automatiquement consignés. Alors, on a bien compris le sens de ce que vous dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot automatiquement. Ça veut dire qu'il y aurait comme ça une sorte de système, une sorte de mécanique qui voudrait dire stop à la beauté?
Non, mais il y a des mécanismes d'ailleurs qui viennent d'ailleurs de l'université, il faut bien le dire, anglo-saxonne, là, qui est tout de même. C'est-à-dire celui de la culpabilisation existentielle du récit. C'est-à-dire, pendant des années, le champ de l'art a fait l'éloge du banal et de l'ordinaire, comme si c'était effectivement une vision politique du monde. Mais non, ce n'est pas une vision politique du monde. L'éloge du banal est extrêmement banal, l'éloge de l'ordinaire est extrêmement ordinaire. Je veux dire, point final. Non, pas. Bah, il faut transcender ça. Par voie de conséquence, on a fini par culpabiliser tout ce qui est dans l'ordre de l'esthétisation. Comme s'il y avait là une marque de la nouvelle vulgarité, l'esthétisation. Mais je veux dire, c'est la moindre des choses, esthétiser le monde. Sinon, on vit pourquoi?
Vous n'avez pas toujours pensé ça, parce que vous avez été un contempteur de l'esthétique. D'ailleurs, vous le dites hein, dans votre livre, qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie?
Et c'est vrai, je disais des conneries lorsque j'étais jeune.
Mais qu'est-ce qui nous garantit que vous dites moins de conneries aujourd'hui?
Ah, ça, écoutez, on verra. Peut-être que je changerai d'idée lorsque je serai beaucoup plus vieux. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le bilan soit plutôt du côté du beau que du laid. Hein. Le lait a envahi notre quotidien. On le voit avec les ronds-points, on le voit avec la bouffe, on le voit avec les paysages, on le voit avec le massacre des campagnes, on le voit avec la publicité, mais qui envahit tout. Non, mais c'est insupportable, la publicité. On n'arrive plus à échapper. Moi, je rêve d'une ville dans laquelle il n'y ait plus de panneaux publicitaires, plus d'enseignes publicitaires, plus de panneaux routiers. Ce serait formidable que les rues soient en terre. Ça serait le Far West.
Y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la fraise, on les mange bien à l'aise. Des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Des yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, au lait de brebis. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des des yaourts, il y a des yaourts à tout. Il y a des yaourts à la pêche et d'autres noyaux de pêche. Il y a des yaourts.
Anne-Sylvestre, elle est yaourt à tout en guise de clin d'œil à un des moments clés de votre livre, Rudy Ricciotti, car le natif du signe du lion que vous êtes rugit, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, non pas contre le yaourt, hein, ce serait trop simple, mais contre des pots de yaourt. Et vous évoquiez les marques à l'instant, les pots de yaourt de marques diverses et variées. Pourquoi tant de passion anti-emballage, Rudy Ricciotti? C'est pas la fibre écolo qui parle, là, c'est plus la fibre anti-marketing.
Afin de libérer l'âme au moment de l'appétit, de la première heure du jour, vous savez. Je veille à ce que sur ma table, il n'y ait pas une seule marque.
Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine?
De la haine, mais c'est de l'instinct de survie. C'est comme disaient les Anglais, c'est en panic survival. Pas possible de commencer son matin avec des yaourts qui ont le nom du supermarché dessus, comme si le supermarché était producteur de lait, vous voyez. On a atteint le summum et je crois que là-dessus, il est temps d'une révolte. C'est pas une révolte bien méchante, de toute façon. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de saccager tous ces emballages.
Mais donc, manger des yaourts dans des emballages neutres, dans des pots en verre, par exemple, sans aucune marque, sans aucun slogan publicitaire, c'est presque un geste politique pour vous? C'est une sorte de manifeste des pots
traminés? Non, faut pas déconner tout de même. Un geste politique, non, c'est un geste érotique. C'est un geste de sauvegarde, c'est un geste amoureux, c'est comme croiser le regard d'une belle blonde, celle que je vois dans le studio derrière, je me doute de ce coup, il y a une tendresse inattendue. C'est bien, ça met un appétit, ça met un désir, ça repose, ça calme, ou ça excite, je sais pas comment il faut le dire, mais par pitié, mais je vous propose tous de supprimer la pub sur votre table.
Le désir, précisément, est-ce que c'est un moteur de créativité pour l'architecte que vous êtes?
Alors, mon moteur de créativité n'est pas vraiment le désir. Je ne suis pas dans l'appétit lorsque je crée, je suis plutôt dans l'anxiété et dans une totale paranoïa. Je suis mort de peur, j'ai très très peur. J'ai très très peur lorsque je crée, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire quelque chose que je n'arriverai pas à tenir jusqu'à l'extrémité, parce que je fais un travail, il y a un champ expérimental. J'ai l'air comme ça de déconner, mais je peux dire que lorsque je fais des projets, chaque fois c'est un champ technologique nouveau, il faut réinventer des modes de production, des modes de faire, des modes sur le raisonnement juridique. C'est à risque. Moi je travaille à risque, je suis un architecte qui travaille à risque. Enfin à risque pour moi-même, pas pour les autres, parce que je pense que la règle fondatrice de ce métier, c'est de se mettre en danger, plutôt que de mettre en danger les autres.
Et la beauté, ça met en danger soi-même?
Absolument. La recherche de la beauté est une quête absolument inquiétante. C'est une quête à risque, on risque de se planter. Ah oui, bien sûr. Bien
donc
sûr.
Vous avez la beauté en permanence lorsque vous dessinez, lorsque vous imaginez plus exactement un bâtiment?
Écoutez, la beauté ne m'appartient pas. N'essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'essaie de la voir même au plus lointain horizon, même à l'horizon métaphysique. Vous voyez, j'essaie de la conserver, de pas la lâcher du regard, pour lui courir après, pour faire en sorte que mon métier soit un peu enchanteur. C'est bien ce qu'on attend de nous.
L'architecte comme réenchanteur du monde.
Oui, cette discipline doit participer du réenchantement, mais de son réenchantement économique aussi, vous voyez. On pourra en parler, on pourra sortir, par exemple, sur la Notre-Dame, sur le drame, il faut essayer de positiver. On peut d'ailleurs en parler immédiatement.
Bien sûr, allez-y.
J'ai été interviewé sur Notre-Dame, des radios arabes m'ont appelé aussi tout à l'heure dans le TGV. Je trouve ça formidable, je disais, mais écoutez, ils étaient catastrophés. C'était un journaliste de différentes radios arabes. Et je lui dis, écoutez, c'est formidable, votre tendresse et votre préoccupation à l'égard de ce désastre fait que nous pouvons échanger entre le monde arabo-musulman et le monde chrétien des messages de tendresse plutôt que des messages de haine. Donc, vous voyez, ça nous rapproche tous. Et donc tout a été dit déjà sur l'ampleur du désastre de Notre-Dame. Et je crois qu'il est temps très vite de positiver.
Alors comment on positive après pareil?
Ben je pense que le président Macron a eu raison de dire très rapidement, nous allons la reconstruire. De toute façon, ça coûtera pas un rond aux caisses de l'État, puisqu'on a vu que les mécènes sont très nombreux. Mais il faut essayer de positiver d'une situation aussi dramatique. Et ben je pense immédiatement à cette possibilité de donner du travail à des artisans, à des entrepreneurs qui sont des gens d'exception, spécialisés dans les monuments historiques que nous avons en France, des tailleurs de pierre, des menuisiers, des charpentiers, des ferblantiers, des limousinants, des verriers. Enfin, ils sont nombreux, ces métiers, avec des noms délicieux. Ils sont nombreux. Et nous devons les faire travailler. Et j'espère que cette manne financière qui arrivera sur Notre-Dame servira aussi à restaurer d'autres églises, d'autres monuments historiques. Et parce que, voyez-vous, ces métiers-là participent justement de la défense et du refus de l'exil de la beauté, de la défense du principe de beauté. Parce qu'ils sont, eux, en plein dans l'horizon du réel. Le réel comme matière qui nous interroge. Le réel, c'est aussi la main du diable à laquelle on doit faire. Enfin, Mick Jagger, dans Sympathy for the Devil, en parle. Il dit, j'étais là avant vous. Donc, puisqu'il est là avant nous, le diable, nous devons aussi faire avec et fabriquer les, comment dire, les complexités pour contenir cet envahissement par le lait. L'incendie est laid. Lui-même, comme syntaxe. Et positiver, c'est penser immédiatement à tout ce qu'on va pouvoir faire, et même en termes de conséquences économiques, c'est-à-dire cimenter une cohésion sociale à partir de ces métiers géniaux, de ces gens géants qu'on a en France. Je le dis encore, la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, a de très grands spécialistes des monuments historiques, que d'autres pays européens n'ont pas beaucoup, hein, et c'est le moment pour leur redonner confiance et les soutenir, voilà.
Monument historique, ça veut dire aussi, Rudy Ricciotti, durer dans l'histoire. Est-ce que vous avez cette ambition-là lorsque vous lancez la création d'un bâtiment, que cet édifice que vous avez imaginé perdure par-delà les années, par-delà les siècles, par-delà les générations?
Alors, on ne se pose jamais cette question comme architecte, mais évidemment que la durée de vie d'un édifice est très largement supérieure à la durée de vie de l'architecte qui le dessine, ou même des entrepreneurs qui le réalisent. J'ai envie de dire, c'est la durée de crédibilité, le degré de durabilité de l'émotion qu'il peut dégager ou de l'usage qu'on en a. Ça, c'est important. Mais voyez-vous, regardez l'exemple de Notre-Dame. C'est 850 ans, Strasbourg, c'est 1000 ans. Il se passe tellement d'années pour fabriquer une œuvre comme ça. Les temps ont changé. Et sur la durée, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, pour Notre-Dame, par exemple, l'Église devient la concrétion et la superposition d'avis très différents. C'est-à-dire, il a fallu peut-être, sur 850 ans, une centaine d'architectes, de maîtres d'œuvre principaux, etc. Puis chacun y va de la sienne. Et on s'aperçoit que l'Église, finalement, c'est cette Église Notre-Dame, qui n'est pas éclectique, mais qui a une complexité, une narration et un récit constructif extrêmement savant, et bien au-delà du gothique, aussi au-delà des œuvres qui l'accompagnent, c'est un territoire de liberté. Et on arrive à ce paradoxe incroyable, d'ailleurs qu'il n'en est pas un, je ne sais pas pourquoi j'ai dit paradoxe, de voir cette église, celle-là comme d'autres, enfin église cathédrale, est porteuse au-delà du message chrétien, parce qu'on n'a pas assez dit quand même. Moi j'écoutais hier soir les médias, et je ne voyais pas beaucoup d'intellectuels dire qu'on perdait une messagerie chrétienne, comme s'il y avait culpabilité existentielle à employer le mot chrétien. Nom de Dieu. Et nom de Dieu.
Oui.
Oui. Mais c'est un réceptacle de liberté, l'Église. C'est ça le grand paradoxe. Vous savez, Chartres. Un jour, je suis monté au sommet de Chartres.
La cathédrale de Chartres. Oui.
Ouais. Voilà. Et lorsque j'arrive en haut, on voit que les colonnes commencent à être enlacées d'épines, de végétaux très aiguisés. Et on arrive aux gargouilles. Vous savez ce que c'est qu'une gargouille au dernier étage de la cathédrale de Chartres? Ce sont des chiens énormes qui font un mètre de longueur, avec des crocs acérés et avec une bite brandie en pierre dure, mais avec une violence et d'un seul coup, un vivant extrêmement présent. Et ça, hors la vue des prêtres, parce que les prêtres, ils ne montaient pas sur les échafaudages à 60 mètres. Hein. Ils ne montaient pas à l'époque. Hein. Et là, ils étaient libres, les tailleurs de pierre.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec l'architecte Rudy Ricciotti qui publie L'exil de la beauté aux éditions textuelles. Et Rudy Ricciotti, Morgane Moal, notre reporter, revient à présent sur votre parcours et quelques-unes de vos réalisations.
De Marseille à Lille, en passant par Nantes, Rudy Ricciotti a laissé sa trace dans de nombreuses villes françaises. Il y dresse des bâtiments qui font la culture et la vie de leurs habitants. On pense par exemple au fameux MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, un cube de 72 mètres cubes qui s'élève à l'entrée du vieux port de Marseille. Ses parois sont faites de résine de béton. Elle forme une structure en résille rappelant la nature, la roche. Et la pierre Rudy Ricciotti en est amoureux. C'est pour lui un minéral quasi érotique. Il en parlait dans l'émission Stupéfiant l'année dernière.
L'idée de minéralité, toucher la pierre, regardez. Toucher la pierre, c'est comme toucher le béton. C'est une matière qui nous parle, qui réchauffe, qui s'adresse au cœur, qui s'adresse au méandre de la mémoire. Ça parle de ça. Cette minéralité qui renvoie la chaleur est quand même de nature essentiellement érotique. On trouve ça dans toutes les villes du panorama méditerranéen.
Rudy Ricciotti compare d'ailleurs parfois les courbes de ses œuvres aux formes d'une femme. Mais le béton ne lui sert pas qu'à cela. Il imagine également des lieux forts, porteurs d'une histoire. C'est le cas du mémorial de Rivesaltes, ancien campement d'internement lors de la Seconde Guerre mondiale dans le sud-est de la France. Cette fois-ci, le lieu représente la violence vécue par les victimes. Le bâtiment fait de béton ocre prend la forme d'un bloc de 210 mètres de long sur seulement 20 mètres de large. Et surtout, pas de haut plafond pour ce mémorial. Rudy Ricciotti pense sa construction pour qu'il ne surplombe pas les ruines du camp, pour qu'elle ne fasse pas d'ombre à l'histoire. Mais ses œuvres ne s'arrêtent pas là. Le lauréat du Grand Prix National de l'Architecture en 2006 se revendique comme architecte local. Il n'hésite pas à critiquer certains de ses confrères qui, selon lui, forcent au consumérisme. Pour lui, l'architecture est politique, elle est vecteur de cohésion sociale. C'est dans cette idée qu'il imagine de nombreuses salles de spectacle, à l'image du Stadium de Vitrolles, situé au sud de la France. Construit en 1994, ce bloc noir teinté de rouge est l'un des premiers édifices de Rudy Ricciotti. Sa renommée vient d'une acoustique très réfléchie. Malheureusement, le bâtiment est abandonné seulement 4 ans après son ouverture. Après ses débuts, ce méditerranéen n'a cessé de dessiner ou redessiner les lieux qui font la culture. Le musée Cocteau de Menton, le département de l'Islam au Louvre ou encore récemment l'aréna de Bordeaux Métropole.
Rudy Ricciotti, un lieu de culture est-il un lieu comme les autres ?
Un lieu de culture est un lieu qui ne peut rester impuni. Là, plus qu'ailleurs, la responsabilité politique de l'architecte est essentielle. J'ai entendu que vous parliez du mémorial de Rivesaltes. Je vais juste dire un mot là-dessus. Le mémorial de Rivesaltes, c'est l'ancien camp Joffre où étaient internés 7500 juifs, mais à l'époque où l'Allemagne n'était pas dans le sud de la France. C'est une œuvre 100% française, puisque ce sont les fonctionnaires de la préfecture qui ont fait l'inventaire des 7500 juifs, nom, prénom, adresse, date de naissance, puis les gendarmes, les fils du peuple, comme disait Pier Paolo Pazzolini, qui les ont internés dans le mémorial, dans le camp, hein, dans les baraquements, et puis après, des cheminots de la SNCF qui les ont mis dans des fourgons à bestiaux, sans fenêtre, et des portes qui ferment de l'extérieur, en disant en plus qu'ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient ça, mais en plus ils le faisaient de nuit pour que ça se voit moins. Donc c'est l'exemple même de la collaboration des grands services de l'État. Il faut le dire, je l'avais dit dans le journal Le Monde, ça avait vraiment dérangé le préfet de l'époque, je disais ça. C'est incroyable quand même. Et dans ces conditions, je ne pouvais pas être dans la transparence comme illusion de la démocratie, etc. Blablabla. Enfin, et donc j'ai décidé d'excaver le site afin d'extraire cette mémoire effacée, enfouie, et de la consolider dans un monolithe de béton très très long, sans fenêtre, on pourrait dire, afin que cette mémoire ne s'efface pas. Sauf avec des trous dans le toit, des patios à ciel ouvert, de sorte que le seul horizon que l'on puisse avoir dans la mémorial de Rivesaltes, c'est le regard vers le ciel. Donc je témoignais là, vous voyez, de la virulence du traitement qui fut fait aux Juifs, même si après on a aussi interné, mis en rétention les républicains espagnols, et hébergé mal, certes, mais les réfugiés politiques de l'Algérie, c'est-à-dire les harkis. Donc vous voyez que l'architecture peut être aussi tendre dans sa minéralité, c'est-à-dire elle doit faire face de manière non impunie à ses responsabilités politiques. Et moi, je marche pas du tout dans les combines de la transparence comme illusion permanente. Voyez.
D'où vous vient cet amour du béton qu'on évoquait avec Morgan Wall il y a un instant? En quoi le béton est-il un matériau plus intéressant que l'acier, par exemple, que vous détestez?
Non, je veux pas interdire l'acier, mais je veux juste
vous le dites dans le livre. Hein.
Non, mais je
l'invente pas.
Non, mais l'acier, La sieste, d'ailleurs c'est plutôt récent hein, dans l'art de construire, mais vous savez, la coupole du Panthéon à Rome, c'est du béton. C'est un génie constructif incroyable, avec une densité qui s'allège au fur et à mesure qu'on monte au sommet, et donc avec une porosité de plus en plus faible, de sorte qu'elle résiste aux agressions de la pluie. Mais je veux juste rappeler, car même nous avons tous une sensibilité environnementaliste, alors même que l'inexpertise dans les enjeux environnementaux fait rage en ce moment, je voudrais juste vous dire que si l'empreinte environnementale du béton c'est 1, l'acier c'est 80 fois plus, l'aluminium 220 fois plus, et l'inox c'est un horizon inconnu.
Oui. C'est pas pour des raisons écolo que vous préférez le béton.
Non, mais ça vient justifier. Si, ça vient justifier parce qu'en plus, c'est un matériau qui n'est pas spéculatif. C'est un matériau qui n'est pas spéculatif comme l'est le coton, le chocolat, le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Et il est produit dans tous les pays du monde. Ça paraît rien comme ça, mais c'est un matériau de proximité. Et c'est tellement mieux de salir chez soi que plutôt d'aller salir chez les voisins, vous voyez, dans les mines d'Afrique ou dans les fourneaux en Inde, voilà. Et cette proximité, de cette manière, permet encore une fois de défendre, de cimenter, oui, au sens de la cohésion sociale et politique, des métiers de proximité sur une chaîne courte de production. Et là, la réalité environnementale.
Bon, pourtant, c'est en béton hein, qui serait le fameux mur de Donald Trump avec lequel vous n'êtes pourtant pas d'accord. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet, Rudy Ricciotti. Est-ce qu'un mur peut être beau?
Absolument. Regardez Rome. Rome, on a des murs de 8 mètres de hauteur dans la centre historique. On a des murs d'immeubles non percés. On a des... regardez le quartier Mazarin à Aix-en-Provence avec des murs de 6-7 mètres qui ceinturent les jardins. C'est très beau.
Y compris lorsque ce mur veut s'opposer à la liberté?
Non, mais attendez, là, c'est un peu trop simple, évidemment, parce que là, vous refabriquez la syntaxe entre l'usage et la forme.
Non, mais c'est référence au mur de Donald Trump.
Ouais, mais j'ai bien compris, non, mais je vous vois venir. Je vois venir, vous essayez de prendre le bénéfice sur la situation. Écoutez, moi, je suis pas l'auteur du mur que Trump veut faire. Je veux juste rappeler que c'est le choix d'une démocratie. Les Américains ont voté pour Trump, et donc ils sont responsables de la réalisation du mur. Donc moi, j'ai pas de leçon à donner aux Américains. Ils ont pris, ils ont décidé,
bon,
qu'ils assument.
Vous dites c'est pas que ce mur serait, je vous cite, c'est dans le livre, un édifice de basse police inutile. Donc on sent quand même que de quel côté du mur, si j'ose dire, oui. Votre cœur balance. Mais édifice de basse police inutile, ça pose la question de l'inutilité ou de l'utilité d'une construction. Alors là, Rudy Ricciotti, c'est presque une question de bac de philo. Mm-hmm. Est-ce que la beauté exclut l'utilité?
Dans un moment donné, on ne peut pas forcément céder au politiquement correct, mais faire face à une messagerie. Et ce mur est une messagerie extrêmement punitive, extrêmement violente, etc. Mais encore une fois, sa radicalité relève d'une expression démocratique. Il faut pas perdre de vue ça. Faut pas le perdre de vue. Attendez, on n'a pas forcément de leçons à donner aux États-Unis. D'accord? Je crois que plutôt aux universités américaines, ça je veux bien.
Mais sur le rapport entre beauté et utilité, est-ce que la beauté peut être au service de l'utilité?
Mais évidemment, attendez, la beauté, d'ailleurs la beauté peut être pauvre. Regardez, l'arte povera, c'est la noblesse du pauvre. Mais l'utile peut fabriquer de la beauté. On le voit dans les mécanismes de l'industrie. On le voit dans tant de pans entiers d'objets, dans la syntaxe esthétique est sublime, alors qu'elle est essentiellement l'expression d'un ouvrage strictement fonctionnel. On pourrait donner des exemples dans l'appareillage médical. On pourrait parler de, je sais pas, une prothèse dentaire, c'est beau.
Vous m'en direz des nouvelles? Sur RFI.
peut-être avez-vous reconnu, Rudy Ricciotti, quelques notes de la musique de Nino Rota, composée pour Playtime, le film de Jacques Tati, sorti en 67. Alors, vous le rappelez, le film a fait un flop, et pourtant, pour vous, Tati avait tout compris, avant tout le monde.
C'est un génie, Tati. C'est un génie, parce que lorsqu'il fait Playtime, et c'est là aussi le grand paradoxe de l'œuvre géante de Tati, c'est à la fois la critique de la modernité et à la fois sa sublimation. Parce que lorsqu'on voit les décors de Playtime, c'est exceptionnel. On n'est pratiquement pas capable de faire des immeubles d'une pareille beauté, même s'ils sont extraordinairement abstraits, extraordinairement lisses, dans le récit constructif est extrêmement plat, monocellulaire. Mais quelle qualité! Les valeurs chromatiques des gris, etc., et son accumulation font de ce film un film extrêmement esthétisant.
Donc une critique esthétisante de la laideur de la mondialisation et de l'uniformisation du monde.
Mais bien sûr, oui, mais bien sûr. Attendez, regardez, quand il fait les affiches des hôtels à Honolulu, à Shanghai, à Rotterdam, j'ai plus le nom de ces hôtels, ce sont toujours les mêmes immeubles en perspective, etc. Donc très tôt, il a fait la critique de la globalisation, et puis il l'a fait avec beaucoup d'humour, surtout.
Et la globalisation, elle tue la beauté, elle tue l'originalité, elle tue l'identité?
Oui, tout de même, vous avez déjà fait la réponse. Je pense que trouver quelque chose de positif à la globalisation, il faut vraiment faire des efforts, quoi. Il faut se lever de bonne humeur le matin.
On pourrait dire le rapprochement entre les peuples, peut-être.
Ouais, écoutez, alors ça, moi, personnellement, j'ai viré la cutie, vous savez, voyager, être à l'international, de manière précipitée, comme la rencontre des autres, personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. J'ai viré la cutie sur ce sujet, vous voyez, j'essaie de rester le plus près possible de mon dos ici, là, en Provence, et j'ai un total manque d'ambition en matière de voyage. Même si je dis ça avec beaucoup de fourberie, puisque je travaille à Sao Paulo, alors, mais bon, Sao Paulo, c'est un autre monde. C'est une ville-état, c'est miraculeux. Hein.
Alors dans Playtime, Tati transforme un rond-point en manœuvre enchantée. Le rond-point, on en a beaucoup parlé en France récemment. Vous en avez dit un petit mot déjà depuis le début de cette émission. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la crise des gilets jaunes. C'est une invention française, hein, le rond-point. Rudy Ricciotti, c'est Eugène Hénard qui a inventé le rond-point pour limiter les accidents à Paris. Qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce qui fascine l'architecte que vous êtes dans l'idée des ronds-points?
Non, mais d'abord, le rond-point, évidemment, c'est un outil sécuritaire. Bon, quand on a balayé, on a dit ça, on peut arriver au fond du sujet.
Voilà, moins d'accidents parce que ça force les voitures à ralentir à l'approche du carrefour.
Voilà. D'ailleurs, c'est le seul ouvrage qui n'est pas assujetti au permis de construire. C'est quand même incroyable, d'accord? Mais qui n'est jamais contesté par personne. Et le rond-point, parfois, il s'achène comme des anneaux olympiques. Hein. Il y en a plusieurs après l'autre. Enfin, c'est assez délirant. Mais le rond-point, récemment, est devenu le signe identitaire de l'expression des gilets jaunes. Faut quand même le dire. On a vu de partout en France, dans les ronds-points, les gilets jaunes occuper ce territoire. Et c'est finalement bien mieux que d'y voir une œuvre d'art ridicule au milieu, un peu déconnante. Au moins, quand on fait le tour du rond-point et des gilets jaunes au milieu, on sait de quoi ça parle. On est confronté à un réel immédiat. Mais le rond-point, c'est pour moi devenu un peu la plateforme, c'est la Bastille, vous voyez, c'est le territoire révolutionnaire maintenant. Alors évidemment, très immédiatement, je tiens à dire qu'il faut refuser les violences qui accompagnent les gilets jaunes. D'ailleurs,
vous rendez hommage à la police et surtout à l'armée, hein, dans le.
Oui, attendez, ça c'est un autre sujet. Je termine sur les gens. Après, je vous parlerai de l'armée si vous voulez. Mais ces ronds-points devenus plateforme de la Bastille aujourd'hui, révolutionnaire, avec des propos qu'il faut savoir entendre. La violence, il faut l'éradiquer, mais il faut savoir entendre. Et je suis arrivé à penser que le rond-point propose une excitation de la posture révolutionnaire et un amplificateur, c'est un haut-parleur incroyable. Le rond-point, c'est presque finalement devenu le clitoris de la République.
Donc le rond-point est très politique, pour le coup, et esthétique.
Mais non, il est ni beau. D'abord, il sera toujours laid, mais d'un seul coup, le rond-point, dans son imbécilité, au-delà de son usage sécuritaire, ce drame paysager qu'est le rond-point, d'un seul coup, apparaît comme étant un charme évaporé, de la, comme une plateforme révolutionnaire. Ça, c'était inattendu.
Alors, beaucoup, quelques allusions sexuelles, hein, depuis le début de cette émission. Il y en a pas mal dans
ouais,
le livre. On s'en amuse.
Ouais,
on s'en amuse un peu, parce qu'on sait vrai qu'on rit aussi un petit peu
en lisant
le livre. Vous allez en indigner quelques-uns quand même, parce qu'il y a des lignes pour la corrida, il y a des mots contre les végétariens et les véganes, tout ce qui est à la mode, visiblement, vous n'appréciez pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une esthétique ricciottienne à se faire des ennemis?
Écoutez, d'abord, je vais vous dire que je mange des légumes. Je suis pas du tout un carnassier, je mange des légumes. Mais je ne souhaite pas qu'on fabrique un destin idéologique à ma place sur la doctrine de l'estomac, vous voyez, et qu'on en tire des conclusions philosophiques et politiques. Je souhaite rester libre de manger des oiseaux, si j'en ai envie, des huîtres et des crabes, d'accord?
Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, si je puis me permettre. Hein. Est-ce qu'il y a une esthétique chez vous à se faire des ennemis?
Alors, je dois dire que c'est vrai, vous avez bien vu, je peux pas m'empêcher de me faire des ennemis, j'adore ça, je sais pas.
Vous en avez besoin?
Peut-être, pour avoir des érections intellectuelles, je sais pas comment il faut le dire, puisque vous avez parlé des mots adossés à l'idée d'une sexualité, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, Ouais, mais c'est pas pour la volonté de nuire ou de mal faire, c'est plutôt la volonté de bien faire, pour tenter d'être encore dans une survivance.
Bon, et vous aggravez votre cas, parce que quand David Desquinville vous demande, je cite, de citer un engagement qui a fait date à vos yeux en matière de beauté, vous citez cet événement-là, nous sommes à Nice sur la Côte d'Azur en 76, archive TF1 consacrée, conservée par l'INA.
On ne peut pas ne pas être étonné par l'audace, le sang-froid et la maîtrise des gangsters qui ont dévalisé ce week-end à Nice au moins 300 coffres-forts de particuliers dans une banque. Un égout, un tunnel de 8 mètres de long que les gangsters ont mis au moins 3 semaines pour percer, des chalumeaux, 6 hommes au moins qui tranquillement, pendant 48 heures, ont percé les 300 coffres sans être dérangés. Et pour cause, il n'y avait aucun signal d'alarme dans la salle des coffres. Avant de partir, les cambrioleurs se sont même payés le luxe de souder de l'intérieur la porte de cette salle des coffres. Le fric-frac du siècle, dit-on à Nice, où une véritable panique s'est emparée aujourd'hui des clients de la banque.
Voilà, le fameux braquage d'Albert Spaggiari, hein, c'est ça le geste de beauté que vous citez en exemple, Rudy Ricciotti?
Peut-être un exemple maladroit, parce que le braquage de l'argent des autres, c'est pas une bonne idée, mais le spectacle lui-même de ce braquage sans haine ni violence dans les infrastructures d'une ville et d'une banque, ça a quand même de la gueule.
La beauté du geste, quoi.
Oui, la beauté du geste.
Peu importe la morale.
Comme quand il s'échappe, il saute du bureau du juge et tombe sur le toit d'un camion. Ce type n'a jamais fait de mal à personne, quoi. Spaggiari, c'est pas un tueur. Et il a un côté mythologique, on dirait un voleur du 19e siècle.
Et pourtant, il y a aussi le pendant que vous mettez tout de suite, c'est-à-dire que vous dites tout de suite que c'est pas l'apologie du hold-up que vous faites, et puis il y a une forme d'hommage quand même à l'autorité, et en plus à l'autorité de l'armée.
Ouais. Pourquoi vous...
Vous sortez le bâton, là?
Ah, c'est intéressant. Vous savez, écoutez, j'ai lu la semaine dernière une statistique. 65% des Français ne font pas confiance à la justice, mais 65% des Français font confiance à la défense nationale. C'est très révélateur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la défense nationale qui porte l'espoir le plus républicain des Français. Et celui de l'éducation la plus fidèle aux valeurs de la République. L'unité indivisible, etc. C'est ça ou la mort. D'ailleurs, la première doxa, la première devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'était
mais la mort, c'est plus les anarchistes qui ont voté ça.
Oui, mais ça, c'était... oui, mais je crois que c'était au tout début. Hein, les anarchistes l'ont volé après aux révolutionnaires. Hein. Mmh. Je crois, ouais, moi je dis une bêtise. Mais oui, bien sûr, sans hésiter un seul instant, je fais l'éloge de l'armée, de la défense nationale, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Ce sont des gens tout à fait fréquentables, parfois beaucoup plus que le milieu de la culture. Et je veux dire, je pense que le héros, la figure du héros romantique aujourd'hui, elle est davantage incarnée par le jeune légionnaire qui saute sur une mine au Mali pour le SMIG, ouais, pour le SMIG, pour défendre nos valeurs, défendre nos libertés, défendre nos croyances, plutôt que par un cultureux rotor qui est pas très clair dans sa culture de collaboration avec diverses perversités politiques de ce monde. Vous voyez, notamment je pense à l'université antisémite. Vous voyez.
Vous connaissez, Rudy Ricciotti, la phrase du prince Michtin dans L'Idiot de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. C'est vrai ou c'est idiot?
C'est pas idiot du tout. Mais on en est loin. Hein. On en est loin. Il faut vraiment être optimiste.
Merci beaucoup, Rudy Ricciotti, d'être passé sur RFI dans VMDN. L'exil de la beauté, votre livre est paru, on le rappelle, aux éditions textuelles.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Plus de la moitié des 6000 langues parlées dans le monde pourraient disparaître dans le siècle à venir. Pour célébrer leur diversité et sensibiliser à leur protection, le groupe de recherche artistique propose Linga, un spectacle pour transmettre la richesse de la nature et des cultures par la danse, le chant, les acrobaties et des récits de vie filmés et diffusés pendant la pièce. Une représentation dans le cadre du Séquence Danse Festival qui se déroule en ce moment au 104 dans le 20e arrondissement de Paris. Reportage pour RFI de Philippe.
À 8 ans, Christophe a enregistré son grand-père parler l'occitan, un dialecte du sud de la France menacé de disparaître. Près de 40 ans plus tard, il est sur scène et la voix de son ancêtre résonne dans la salle 200 du 104. Avec le spectacle Lenga, il nous alerte sur la disparition des langues.
Autour de nous, les mots s'effacent, les voix s'éteignent. 250 langues aborigènes ont disparu en 100 ans. Les autres ont peu de chances de survivre sur le long terme. Pourtant, cela ne semble inquiéter personne.
Le ton est grave, le message est inquiétant. Les langues sont menacées, mais ce soir, elles sont célébrées. C'est Maeri Nyaina, Pierre Ranaifson, qui parle. Il porte en lui l'héritage de la culture des Mernes, peuple du centre de Madagascar. Il nous parle de sa langue, des danses, des acrobaties et des rituels qui font son identité. Derrière lui, une vidéo de sa grand-mère, filmée pour le spectacle. La vieille dame nous parle de sa culture, de son langage, un récit que son petit-fils est fier de transmettre sur scène.
C'est mon histoire, histoire de grand-mère, histoire de ma famille. Et ça, c'est ma biographie vraie. C'est beaucoup de messages, ça passe.
C'est à partir de trajectoires personnelles que Lenga nous sensibilise à la diversité des langues et aux menaces qui pèsent sur elles.
Pourquoi une langue disparaît? Pourquoi d'autres s'inventent? Pourquoi les langues sont vivantes, mouvantes?
Christophe Ruy est le concepteur et metteur en scène du spectacle.
Leur diversité est soumise à menaces de nos jours. Il y a 6000 langues qui se parlent à travers le monde et les linguistes affirment que 3000 d'entre elles sont soumises à disparition d'ici 100 ans. Donc il y a une forme d'urgence, mais c'est pas une urgence théorique a priori. Ça vient vraiment du corps et de l'expérience biographique.
Lizzo James a grandi dans le bidonville de Kayelicha, au Cap. Il nous parle de sa langue maternelle, le Xhosa, des rituels et des chants traditionnels de cette tribu d'Afrique du Sud, une culture singulière qu'il est fier de mettre en lumière. J'ai l'opportunité de raconter d'où je viens et de partager mon langage avec d'autres personnes. C'est tout simplement montrer au monde que nous existons en tant que peuple Xhosa. Il y a beaucoup de langues qui sont en train de mourir et la mienne existe encore, alors bien sûr que j'en suis fier. Pendant plus d'une heure et demie, on est plongé dans la grande richesse des cultures de chacun, à mi-chemin entre le théâtre et le documentaire, une façon de transmettre le lien fort entre nature et culture pour le metteur en scène.
Il y a une occurrence entre la disparition des espèces, le tarissement de la diversité culturelle et bien sûr le changement climatique.
Un message engagé qui ramène chacun d'entre nous à notre histoire personnelle. Juliette a assisté au spectacle.
J'ai des origines tunisiennes et cet apprentissage de l'arabe, je l'ai eu étant petite, mais aujourd'hui, c'est des choses que je voudrais retrouver.
Par une approche à la fois scientifique et artistique, Lenga nous transmet la richesse des langues et le lien fort qui les unit à la nature. Un message résumé en une phrase, là où vivent les arbres, résistent les langues.
Reportage de Philippe Père dans un instant. L'info, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.